retour les amis, bienvenue sur Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, je reprends ma voix normale pour laisser la voix de speaker de catch des années 80 de côté. Il vous avait manqué, vous me l'avez réclamé par messagerie Instagram, vous me l'avez réclamé quand vous me croisiez dans la rue, vous me l'avez réclamé sur YouTube, il est de retour, le format culte en à peine 33 épisodes, Burger Ring est de retour. Les amis, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de revenir à ce format. J'ai deux formats cultes, hein. J'ai les entretiens choc sur YouTube qui malheureusement ont été tous censurés. Bien que certains d'entre eux avaient atteint plusieurs millions de vues, notamment le 8 qui avait atteint 4,7 millions de vues. Bon, c'est comme ça, ainsi en est-il de l'époque dans laquelle on vit. Mais fort heureusement, les podcasts, eux, n'ont pas été censurés, ce qui a fait de ce format un format culte. Beaucoup de gens m'en parlent, ils m'en parlent même plus que les entretiens chocs. C'est quelque chose qui, petit à petit, est devenu un incontournable. Donc je suis très content de revenir à ce format. Je sais que vous aussi, ça vous fait plaisir. On va repartir pour des podcasts d'analyse, de philosophie, de rigolade, d'humour, de spiritualité. Voilà, je sais que c'est là, c'est un petit peu la recette qui avait fait le succès des podcasts précédents, des 33 épisodes, et je crois qu'il y avait une dizaine ou un peu plus ou un peu moins de hors-série. Donc ça faisait quand même un peu plus de 40 épisodes. Donc on avait quand même produit de la matière, voilà. Et écoutez, ben voilà, vous connaissez l'histoire, je vais pas revenir dessus parce que c'est je pense que je le ferai peut-être dans un live rigolade, puisque maintenant que c'est passé, on peut en rigoler, mais je me suis fait confisquer tout mon matériel. Voilà, je reviendrai pas dessus, on va pas mettre du négatif dans le début de ce retour de podcast. Donc j'en parlais dans un live et je vous commenterai l'affaire de bout en bout pour que vous ayez une vue entière et pleine des événements qui sont passés. Là voilà, là j'ai récupéré mon matériel, je suis en mesure de refaire des podcasts pour votre plus grand plaisir, et le mien il faut le dire parce que je prenais beaucoup de plaisir à faire ce format. Donc voilà, c'est le grand retour après plusieurs mois d'arrêt. Donc ça s'était arrêté je crois peut-être le 13 décembre, je ne me rappelle plus, et il n'y a rien eu jusqu'à ce podcast. Voilà, donc c'est le retour de Burger Ring. Le podcast, comme vous le savez, le plus protéiné, mais aussi le plus gras du game. Alors les amis, l'actualité, sauf quand vraiment il y a des choses, il y a vraiment des choses à dire, des choses drôles. Je vais plutôt vous raconter mes vacances parce qu'elles ont été riches en émotions. Alors déjà, mais vraiment ça va être pêle-mêle, vous connaissez comment ça marche, c'est que de l'impro pendant une heure, donc il n'y a absolument aucune structure, donc c'est en fonction de ce que mon cerveau me donne que je vais vous donner de la matière. Voilà, il n'y a pas de notes, il n'y a rien, vous le savez, c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. La performance, c'est malheureusement pour moi, parce que c'est vrai que de temps en temps il faudrait que j'en mette un peu plus, c'est pas la structure ni la préparation qui fait le suc de mon boulot, c'est plutôt l'impro. Donc évidemment, qui dit improvisation dit aucune structure. Donc je vagabonderai comme ça, petit à petit, d'un sujet à l'autre, en fonction de mes pérégrinations oratoires et de ce qui me reviendra en tête. Alors, figurez-vous que j'ai vu récemment un podcast donc sur la vie assez intéressante de... Pas un podcast, excusez-moi, pardon. Un documentaire. Sur la vie de Bob Marley, donc le pape, si on peut dire, bien que je n'aime pas trop cette expression, le pape du reggae, le roi du reggae, la légende de la musique reggae, du phénomène qu'a été la musique reggae dans les années 70-80, fin 70 tout 80, et qui est devenue une légende. Alors, vous devenez une légende quand, dans les fêtes foraines, il y a des clans d'eau qui vendent des posters à votre effigie. Parce que en général, on a le quintuplé Tupac, Bruce Lee, La Fraude. On a ensuite Bob Marley. Et on a en général, bien que ce soit un peu moins... un peu moins répandu, on a toujours un petit Elvis ou un Johnny quand on est en France. Mais enfin, c'est en général, c'est ça. Hein, c'est les trois, voilà, c'est les trois légendes que vous retrouvez. Voilà. Donc, en fait, quelque part, t'as réussi ta vie si tu finis sur des t-shirts imprimés en Chine et revendus à la sauvette par des clandos de tout bas dans les fêtes foraines. C'est que quelque part, ton œuvre, voilà, ton œuvre a touché les masses populaires. Et que tu es devenu une espèce d'icône mondiale. Voilà, c'est le cas de Tupac, c'est le cas de Bob Marley. Donc du coup, voilà, j'ai vu passer le documentaire. Très intéressant. Alors, Bob Marley, donc, c'est un enfant métis qui est le fruit hein, vraiment du colonialisme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire un espèce d'officier anglais qui a couché avec une jeune fille qui avait, je crois, même pas 16 ans. La mère de Bob Marley n'avait même pas 16 ans quand elle a eu les relations sexuelles avec le père de Bob Marley, et Bob Marley est né en tant que métis. Il a subi énormément de rejets en Jamaïque par les Jamaïcains, puisqu'il était le fils d'un Anglais, et donc le fils de l'ex-maître, puisque les Anglais ont été une grande nation d'esclavagistes. Donc en Jamaïque, il y a un rejet comme ça, qui peut tout à fait se comprendre et s'entendre, de tout ce qui peut représenter l'Angleterre coloniale. Voilà. Donc, énorme rejet de Bob Marley, qui a fait petit à petit son chemin dans le quartier. Alors, je crois qu'il a vécu dans la campagne jamaïcaine au début de sa vie, si je me souviens bien du reportage. Et il a fini par aller dans un quartier, alors que moi, je savais pas du tout que ce quartier était très connu, qui s'appelle Trenchtown. Peut-être que je le prononce mal, désolé, je suis pas un anglophone, je suis pas un anglophone exceptionnel. Et donc il a eu un peu la ghetto life. Alors je savais pas du tout que Bob Marley, en fait, moi je pensais qu'il avait direct fumé des joints et chanté des chansons pour chier sur Babylone, mais en fait non. Il a fait un tour par les États-Unis, il a vécu aux États-Unis, il a bossé dans une usine Ford, donc c'est assez inattendu, il avait les cheveux courts, les cheveux rasés, il bossait à l'usine. Donc ça m'a quand même fait respecter le personnage, parce que moi aussi j'ai bossé à l'usine, et je me suis dit putain, il a démarré vraiment par les boulots les plus difficiles et les plus ingrats, donc respect. Et puis après il y a le reste de son œuvre qui correspond aussi à son époque. Hein. Il a été porté par la grande époque des indépendances. Il arrive au moment où les pays africains s'indépendantisent petit à petit, où les pays africains en fait deviennent des pays à part entière qui commencent à se penser en tant que tels et qui donc ont un rejet du blanc qui parfois a posteriori peut paraître un peu exagéré puisque ça fait quand même partie de leur histoire. Peut-être qu'ils le verront différemment plus tard, mais c'est dans ce contexte-là de résurgence ou en tout cas d'émergence du tiers-monde que Bob Marley fait sa carrière. Donc évidemment, il portait un espèce de truc qui était très corrélé à la mode de pensée de l'époque. Hein. Donc c'est mai 68. C'est vraiment la liberté, l'anarchisme, le New Age, le retour aux roots, le retour aux racines. L'humanité aurait été déviée de sa trajectoire naturelle en commençant à mettre des chaussures et en arrêtant de se torcher avec la main. Et il faut absolument y mettre fin en se débarrassant de tout, absolument tout, ce qu'a amené l'Occident, diabolisé, parce qu'il y a vraiment ça dans le reggae. L'Occident est le siège du diable, donc en fait les Blancs vivent dans l'antre du diable. Alors, si on devait tirer cette conclusion aujourd'hui, à l'instant T, ben en fait elle est vraie. Hein. Je pense que l'Occident aujourd'hui est promoteur de déchéance et de dégénérescence, mais on ne peut pas prendre une ère civilisationnelle à l'instant T. L'Occident ne se résume pas à 50 ans d'idées d'extrême gauche et 10 ans de wokisme. L'Occident, c'est la Grèce antique, c'est Rome, c'est le Moyen-Âge, les cathédrales, c'est la Renaissance, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Donc si on remet tout ça en perspective, il ne me semble pas qu'on puisse réduire l'ère européenne et l'ère occidentale à quelque chose de à Babylone, quoi, à quelque chose d'uniquement négatif. Parce que c'est ça vraiment qu'il y a dans le reggae, c'est les Blancs sont des démons, la blanchité, c'est ce qui envoie de l'esprit démoniaque dans l'humanité, et en fait, nous les Blancs, on est comme ça parce qu'on vit dans Babylone. Bon,
En plus, derrière, je pense qu'il y a le côté rejet du daron par Bob Marley, puisque son père ne l'a jamais élevé. Son père n'a rien eu à foutre de lui, donc il a estimé que parce que son père avait été défaillant, tous les blancs sont des enculés. C'est le cheminement classique du racisme de bas étage. Bon, mais c'est l'époque qui veut ça, et je ne lui en veux pas. Je comprends, quand on est un enfant métis dans une société extrêmement marquée par le racialisme, comme le sont toutes les sociétés anglo-saxonnes et noires, il faut le dire aussi, puis c'est deux racialismes qui se rencontrent, vous avez effectivement un conflit intérieur énorme, et il faut que quelqu'un soit responsable. Bon, eh ben c'est les blancs, voilà. Sauf que j'apprends à la fin du reportage, et c'est l'objet de toute cette discussion autour de Bob Marley, j'apprends à la fin du reportage que, en fait, il se fait une blessure au pied. Oui, parce que le mec évolue pieds nus. Voilà, ça aussi, c'est un gros problème. C'est qu'en fait, quand tu passes ta putain de journée pieds nus, au bout d'un moment, il t'arrive des saloperies. Et en fait, il s'est blessé au pied. C'est ça l'histoire, hein. C'est qu'il s'est blessé au pied et en fait, la blessure a été très très mal guérie. Et en fait, il y a eu une espèce de... surinfection, et ces cellules ont commencé en fait à se dégrader, et ça a donné un cancer. Donc le mec a attrapé le cancer par le pied. Bon, c'est la version officielle, alors c'est assez nébuleux, parce que des fois il parle de drogue, des fois il parle de ça. Bon, je pense que la drogue a pas dû l'aider à lui filer un système immunitaire de champion, hein. Je veux dire, bon, quand tu tournes à la beuh toute ta vie, et que tout d'un coup, t'as un bobo, je veux bien qu'Anzaplast soit un pansement très très bien étudié par les ingénieurs européens pour guérir les petits bobos, mais je crois que ça aide pas d'avoir un taux de THC dans le corps supérieur à toute la Bretagne réunie. Donc si vous voulez, il a eu sa situation qui s'est dégradée. Donc j'imagine que après avoir chanté pendant des années contre l'Occident, Babylone, l'Occident c'est Babylone, l'Occident c'est le diable, j'imagine, je me suis permis d'imaginer qu'il serait allé se soigner avec des techniques traditionnelles chamaniques, comme il en existe dans toutes les sociétés primitives, comme il en a existé dans les sociétés primitives occidentales aussi, hein, je veux dire, on est passé par là. Je me suis dit, bon, le mec va se faire soigner par un chaman, tu vois, il va aller dans la forêt, il va mastiquer quatre feuilles, et puis ça va aller mieux. Eh bien, figurez-vous que non. Figurez-vous que, après avoir dit, oui, Babylone, c'est du caca, les Blancs, c'est des enculés, qu'est-ce qu'a fait le mec ? Il allait se soigner en Europe. Et oui, le mec est allé en Europe se soigner. Donc en fait, il perd pas le nord, loulou. Babylon System, hop, vous avez des carcinomes au niveau du métacarpe supérieur. Ah, hop, là, il a cherché tous les annuaires tous les annuaires disponibles de Jamaïque, tu vois. Hop, il a regardé quel docteur. Il a pas privilégié les docteurs dont le nom de famille finit par N'Golo Kanté, tu vois. Il s'est dit, je vais aller en Suisse. Tu sais, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que les mecs chient sur l'Occident. On va dire, par continuité, ils pourraient aller dans un pays de Narbo, tu vois, un pays un peu roots en Occident, c'est moins la honte, si tu veux. Mais qui va se faire soigner un cancer au Portugal ou en Espagne? Qui, en fait, parce que c'est ça qui se passe dans le cerveau. En fait... Tout d'un coup, on te responsabilise, parce que les fumeurs de joint, c'est comme les adolescents. En fait, rien n'a d'importance jusqu'à ce qu'il se passe un truc méga grave, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui meurt dans son vomi à la fête. Hein, Enfin, tous les trucs qui arrivent aux shiteux, qui ont continué le shit après 18 ans. Donc, si tu veux, là, il y a eu un moment où il a dit, voilà, il a appris un nouveau champ lexical. Parce qu'avant, il était dans « Oh, 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 dans ma cabane, dans mon jardin, dans ma forêt. » Il était là-dedans, il se posait pas trop de questions, il utilisait des micros ultra-zone, des micros allemands. Voilà, parce qu'en fait, les micros, si tu veux, n'ont pas été inventés. Je suis désolé, je suis obligé de clasher, parce qu'en fait, il y en a plein le cul. Si vous voulez, je supporte pas les mecs qui chient sur l'Occident et qui sont pas cohérents. Si tu veux, moi, je n'aime pas trop les sociétés orientales.
D'accord.
Quand je dis oriental, c'est certaines sociétés bien précises ayant un monothéisme qui est différent du mien. Donc, j'y vais pas, en fait. Et je ne consomme pas leurs produits. Et en fait, je ne suis pas affilié à eux par quelconque de mes objets quotidiens ou par quelconque de mes décisions. Voilà, quand je vais en vacances, je vais visiter des pays où il y a des cathédrales. J'adorerais aller en Grèce, j'adorerais aller en Serbie pour voir un peu la chrétienté orthodoxe. Je vais en Espagne, j'ai fait l'Italie de fond en comble. D'ailleurs, je vis en Espagne, je vis dans un pays qui correspond à mes aspirations religieuses, contrairement à beaucoup de personnes qui n'ont pas la classe d'avoir cette cohérence-là. Donc moi, je reste dans l'ère civilisationnelle qui correspond à mon esthétique, à ma morale psychologique et puis surtout à l'histoire de ma lignée, de ma famille. Voilà. Donc je suis cohérent. Je ne vais pas visiter, je ne vais pas à Kandahar en vacances. Je ne vais pas me faire soigner, si j'ai un problème, je vais me faire soigner par... je vais aller à l'hôpital Santa Teresa, à la clinique Santa Teresa d'Albacete, à la clinique Sainte-Thérèse. Je ne vais pas à la clinique Al-Moussaoui, Al-Saif, ou à Abou, je ne sais pas quoi. Voilà, parce que je suis un type cohérent, en fait. Donc, si vous voulez, je là où je mange, je vais me soigner. Voilà. Je chie pas là où je vais me soigner. Le problème, c'est que Bob Marley, il a passé sa vie à chier sur l'Occident. Et donc là, il y a ce qu'on appelle un carcinome qui fait toc-toc, tu vois. Et tout d'un coup, le mec se rappelle de l'Allemagne. Tu sais, c'est-à-dire qu'on était dans wow, wow, wow. Et tout d'un coup, il y a une carte du monde qui s'affiche dans son cerveau, tu vois, au moment où il dit bon, parce que, oui, le docteur en Jamaïque, je pense pas qu'il allait en Jamaïque, je pense qu'il est allé aux États-Unis. Bon, après, il était en tournée aux États-Unis, je crois, quand il l'a appris. Donc, il allait voir un gros Américain qui s'appelle McCurkey, ou je sais pas quoi, ou McHoneil. Il allait chez un Ricain d'ascendance germano-scandinave, tu vois, et il lui a dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, le gros chelou américain lui a dit, you have a cancer. Et donc là, il y a eu des graphiques, il y a eu des trucs, il y a eu des démonstrations de radio. Et vous voyez cette petite tache, c'est ce qu'on appelle une lésion cancéreuse. Donc là, il y a eu le moment où en fait, t'as tout le, tu sais, t'as des mots que t'avais jamais croisés, tu vois, qui arrivent dans ton cerveau. lymphatique, des mots comme ça, des mots comme lymphatique, des mots comme radiotherapy, des mots comme des mots comme cathéter, enfin tout le champ lexical horrible du cancer, voilà. Mais carcinome, ça reste mon préféré. Carcinome, tu sais pas si c'est un personnage d'opéra italien. Tu sais pas si c'est un collègue à Scapin, tu vois, ou si c'est un truc dans ton corps qui est en fait du carbone, tu vois, ou si t'as un copeau de bûche noire brûlé dans le corps en fait, et que ça s'appelle tes cellules, et qu'elles sont dégénérescentes, c'est que tu vas crever en fait. Donc là, il y a un moment où le mec, le rasta pieds nus, tu vois, il s'est rappelé que bon, déjà faut mettre des chaussures, et ensuite que il y a le sérieux game. Parce que oui, aller dans des stades en Afrique, dire « Wow, wow, wow !» à des mecs qui vont s'étriper une heure après, entre le Front de Libération du Nord et le Front de Libération du Sud démocratique, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça coûte pas cher. Ça demande pas beaucoup d'efforts intellectuels, hein, on va pas se mentir. Je vais revenir en ayant des rastas qui t'arrivent jusqu'aux couilles, sentir le patchouli, prendre un micro ultra zone, un micro allemand, et dire « Ouais, les Blancs, c'est des fils de pute. Mama Africa, wow, 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 ya, ya, ya !» Gesticuler, faire une danse de mec qui en manque à 3h du mat, là, au Ferret de Bayonne, ça demande pas beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on appelle, alors c'est ce qu'on appelle du populisme. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire courant, de la facilité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, t'as plein de gens pauvres, tu arrives, tu dis « Alors, vous avez vu là, vous avez pas de chaussures ?»« Bon, mais ça cause des Blancs !» Bon, et là, tout le monde t'aime. Le problème, c'est quand t'as lâché des punchlines comme ça, il faut pas que t'ailles chez des médecins allemands, en fait, après. Faut que t'ailles chez le docteur Mfoudi, tu vois, qui va te proposer du Lillet. Bon, ceux qui ont la ref comprendront à quoi je fais référence. Mais si au bout d'un moment, stop de chier sur les Blancs, et il t'arrive une couille, et là, hop, tu redeviens sérieux. Tu sais, c'est quand le troisième trimestre arrive, tu t'es rappelé que t'as eu 5 pendant toute l'année, là, et tu te dis, oh putain, faut que j'arrête de branler, sauf que le troisième trimestre, c'est dur 2 mois, en fait. Voilà. Donc là, en fait, c'est foutu, donc tu vas redoubler. Bon, mais c'est ce qui s'est passé pour Bob Marley. C'est-à-dire qu'il a chié sur l'Occident, il a marché pieds nus, il a mangé du soja, il a fait des interviews en disant, comment tu peux, Man, comment tu peux mettre un animal mort dans toi? Ton corps est un sanctuaire. Il a dit des trucs comme ça. Il a dit que quand tu manges de la viande, tu mets un animal mort en toi. D'accord. Et une meuf qui prend une tub, qu'est-ce qu'elle met en elle? Un chibre vivant? Bon, bref. Et donc, du coup, le gonze, là, il s'est rappelé. Il s'est rappelé du sérieux game. Donc, vite, il a envoyé ses gonzes là. Il a payé des mecs efficaces pour vite trouver des annuaires, pour trouver qui était. Parce qu'à l'époque, tu peux pas googler, tu vois. Tu peux pas mettre meilleur docteur allemand en cancérologie, tu vois. Donc là, il a activé le sérieux game. Il a commencé à regarder. Alors attendez, par qui je peux me faire soigner? Là, il a éliminé des pays. Tu vois, il a regardé Burundi, Angola, tout ça, il a triqué. C'est dommage. Après avoir dit Babylone toute ta carrière, pourquoi tu balayes comme ça de la main, d'un revers de la main, tous ces braves docteurs africains qui, en plus, pour la plupart d'entre eux, ont été formés à cette époque-là en Europe ou par des Occidentaux dans leur pays. Donc, je veux dire, bon, il aurait pu, là encore, jouer la carte tiers-monde émergent. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Bob Marley, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te dégonfles. C'est la dernière ligne droite, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là, en fait ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Là, tu t'effondres. Nous, on y croyait. Lion, the Zion. Et qu'est-ce qui se passe, hein ? Il y a de l'indicatif suisse, fils de pute. Tu prends un téléphone, tu marques un indicatif suisse, enculé de tes morts. T'as pas marqué un indicatif du Congo-Brazzaville, enculé de ta race. Pourquoi tu fais ça, fils de pute ? Pourquoi, au moment de ta mort, tu restes pas avec le chibre dur ? Je suis désolé, Scarface, c'est peut-être un film de seconde zone avec les coups de flingue en stéréo, avec des Mexicains qui tombent au ralenti de l'étage parce qu'ils ont pris une 308 mag dans le buffet, d'accord ? Mais au moins, Tony Montana reste Tony Montana jusqu'à la fin, fils de pute. Ok ? T'as été plus décevant que Tony Montana. Alors que Tony Montana, c'est un Cubain qui existe son asile politique. Hein. Il parle mal à sa meuf. Il a le nez plein de coque. Mais putain, à la fin, il a le manche, fils de pute. À la fin, il sort avec un M16, hein, d'accord ? Et il arrose. Ok, avec Sandrine, là. Je sais plus comment il l'appelle, sa mitraille. Il arrose. Il arrose les armées de fils de pute, de cubains communistes qui essaient de prendre d'assaut sa villa. D'accord? Pour défendre sa propriété privée, parce que jusqu'à la fin, on peut dire ce qu'on veut de Tony Montana, mais il est anticommuniste jusqu'à la fin, tu vois. Bob Marley. Sauf que toi, t'as fait la salope. Quand Tony Montana, il commence à prendre un coup de pression, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge sa tronche dans un gros tas de coques, hein, il sniffe jusqu'à en avoir derrière le cortex, tu vois, il prend sa mitrailleuse et il va mourir comme un homme, dans la droite ligne de ce qu'il a toujours été, d'accord? Toi, non. Toi, t'es pas allé chez les pygmées te faire soigner, fils de pute. T'as pris un annuaire, t'as regardé quel était l'indicatif pour la Suisse alémanique et tu as appelé un docteur en Suisse alémanique pour te faire soigner. Par les mêmes blancs sur qui t'as craché, enculé. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable, ça. J'en ai marre de ça. C'est comme Spike Lee et tous les autres là qui chient sur les blancs toute la journée. Et en fait, putain, ils utilisent que de la technologie de gros blancs pour faire leurs films, en fait. Mais merde, mais si tu veux chier sur les blancs, communique avec les outils que t'as inventés, en fait, tu vois. Dis-nous-le en tam-tam ou en signaux de fumée, enculé. Pourquoi ? Moi, j'ai absolument rien contre les gens qui viennent, les extra-européens, qui ont un respect pour l'Europe où ils vivent, ou en tout cas pour l'Occident dans lequel ils vivent. Ceux qui sont partis pour chier sur l'Occident et qui vivent, je sais pas moi, à l'asiatique, à l'africaine ou à la musulmane, là où ils se trouvent, bravo, félicitations, vous êtes cohérents. Tous les petits enculés qui jouissent du génie occidental pour ensuite lui cracher dessus, c'est insupportable. C'est insupportable. Et Bob Marley et l'autre là qui fait des films racistes anti-blancs là, ils sont dans le même sac. Ce sont des mecs qui se dégonflent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Tu vois, c'est comme Rocaille Diallo en fait. Oui, Mama Africa, pourquoi tu vas faire ton shopping aux Galeries Lafayette en fait ? Explique-le nous. D'accord ? Pourquoi tu vas pas faire ton shopping sur le marché de Bamako en fait ? Acheter des oignons à des dogons. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il n'y a pas de cohérence, mon enculé ? En fait, c'est infernal. Donc là, il y a eu le Lion from Zion qui a composé un numéro suisse. Donc là, ça a décroché en Suisse alémanique, ça a parlé chleu. Ça a parlé chleu, première humiliation, d'accord ? T'appelles dans soi-disant le cœur de Babylone, c'est un Allemand alémanique qui te répond qui a fait 15 ans d'études parce qu'il est précis, fils de pute, et tu le sais. Tu sais qu'il est précis. Tu sais qu'il s'en branle du reggae, que c'est précisément parce qu'il écoute pas de reggae qu'il va être apte à te soigner, espèce de gros enculé. Tu le sais, ça. Tu le sais au fond de toi. Tu sais qu'il va être rigoureux. Tu sais qu'il y a des mots qui vont finir par techtunkechtachten. Tu vois, il va y avoir des chtachten à la fin des mots. Et tu sais que ça va t'aider à survivre, enculé. Tu le sais. Alors pourquoi dans tes chansons, tu n'en parles pas? Ou au moins, tu te contentes de la fermer, bordel de merde. Tu vas le chercher, le Staufen. Le Staufen. Tu vas le chercher, fils de pute. Tu vas le chercher au moment où t'es en PLS, enculé. Pourquoi tu nous fais pas une Tony Montana ? Tu devrais mourir dans une guerre de gens en Jamaïque, ça c'est stylé. Si Bob Marley était mort d'une balle en essayant de ramener la paix en Jamaïque, oui, là on y va, là c'est bon. On peut te sacraliser. Tu finiras pas sur des t-shirts vendus par des Sénégalais de tout bas pour envoyer du pognon au marabout mouride. D'accord ? C'est infernal ça en fait. C'est infernal ce manque de continuité, c'est insupportable. C'est insupportable. Zion. À la fin, il y a du. Putain, mais je vais regarder l'indicatif de la Suisse parce que je suis en train de dire ça depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, donc on va regarder, je vais vous dire exactement. Alors, voilà, on va aller sur Google. Non, mais on va regarder parce que je veux que vous ayez le truc en entier. D'accord ? Je veux que vous sachiez exactement quel est le numéro indicatif international. Attendez, je tape ça sur Google. National. J'ai tapé comme un port international. Suisse. Voilà. Alors, on va regarder. Négatif. 41. Il y a eu du 0-0-41, enculé. 0-0-41. Attendez, traduction. Attendez, bougez pas. Traduction français, suisse, attendez. Non, pas suisse, bordel. Voilà, allemand. Alors, attendez. Bonjour. Je suis Bob Marley. Et j'ai un cancer à cause du shit. Alors... Alors ça donne. Hallo, ich bin Bob Marley und ich habe Krebs wegen Scheiße. Putain, fils de pute. Ah, là, t'as appris à parler allemand, enculé. Ah, putain, excusez-moi. Excusez-moi, putain. Désolé pour les problèmes de son. Oh. Ah, putain, allez. Ah, il faut que je me calme, bordel. Excusez-moi. Ah. Ouh, attendez, 2 minutes, parce que je sais que c'est désagréable quand j'explose de rire au truc, là, attendez. Voilà, donc du coup, il s'est... Oh putain. Allez, excusez-moi. Donc, il est allé en Suisse. Celui, il arrive, bon, déjà le mec. Il y a le moment très humiliant. Où il va à l'aéroport. Alors, monsieur Bob Marley, on va faire une tournée. Je vais en Suisse, là. Ah bon, vous allez faire quoi en Suisse? Parce que là, quand tu vas en Suisse à cette époque-là, c'est soit pour blanchir de la thune, soit parce que t'es pété de thune. Voilà. Donc, si vous voulez, là, il y a la première humiliation. Donc, le mec arrive. Il atterrit à l'aéroport de Zurich, ou je sais pas où, là, en Suisse alémanique. Et là, il se rend chez le docteur. Alors, attendez. Attendez, on va mettre cancérologue suisse, on va triper. Cancérologue, attendez. Hop, cancérologue suisse. Alors, docteur, je vais mettre docteur cancérologue suisse pour trouver un vrai nom. De Schleu. Oh putain. Pierre-Yves Dietrich. Dietrich. Il y a le docteur Pierre-Yves Dietrich. Je sais pas comment on prononce Dietrich. Il allait au Luzerners Kantonspital. Oh putain, alors là c'est du lourd. Attendez, site web. On va aller regarder ça. Donc il arrive. Putain, le site est énorme. Willkommen in der Onkologie. Il est arrivé et on l'a fait. Willkommen in der Onkologie. Là, Zion était très très loin. Hein? Là, les lions avec des rastas, les drapeaux. Là, le code couleur a changé quand il arrive en Suisse. C'était plus rouge, jaune, vert. D'un coup, ça a été très sérieux. Il y avait beaucoup de blanc, des couleurs un peu métallisées et du bleu ciel. Tu vois, dans un hôpital suisse high-tech. Là, hop, On change de... Là, c'est plus les t-shirts qu'il y a à la foire qui font référence au truc rasta. Là, il y avait pas des posters de fils de pute avec des feuilles de ganja sur fond de drapeau jamaïcain. Là, tout d'un coup, le code couleur a changé. L'ambiance générale a changé. Il y avait plus de waouh waouh, il y avait du allô. Voilà. C'est on, hop, on laisse les waouh waouh, les variations de voix là de mecs qui n'arrivent pas à faire un bâtiment en dur. On les a abandonnés. Il les a laissés à l'entrée. Là, il y a eu du. Il a regardé le sol. Il arrive à l'accueil. Feel coming in their oncology. Là, il a regardé un peu le sol. Il a fait yes, 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 man. Oncologische Behandlung in Wunderort. C'est bien fait, Bob Marley. C'est bien fait qu'à la fin de ta vie, t'as entendu parler allemand dans tous les sens. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. D'accord? J'ai beaucoup de respect pour les soldats allemands qui sont morts à la guerre parce qu'ils étaient entourés par d'autres allemands. Et du coup, les derniers trucs qu'ils entendaient, c'était en allemand. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après, tu me diras, tu arrives au paradis, tu kiffes. Hein, quand t'as pris du. Des oncologies, balfrachites, diagnostic, thérapie, unnachok, von Xebekakankrugen. Quand t'as pris ça, je pense que quand tu arrives au paradis, tu es détendu. Tu vois, il y a de la lumière bleue, tu sens une petite chaleur, tu fais ah tiens, ça n'est pas comme les rues de Trèves. Tu vois, tout d'un coup tu te dis ah c'est et de rouage depuis plus de 10 secondes là, donc ça y est, je dois plus être allemand, je dois être juste mort et au paradis. Donc si vous voulez, c'est quand même bien fait après avoir balancé du Zion, Babylone, tu vois, de prendre des speeches en allemand. D'accord, il a pris des speeches de l'ère de répartition de l'ethnie germanique, en fait. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des arcades sourcilières à prononcer avec des yeux très bleus sans compassion. D'accord? Avec des explications en allemand, comme ça, très simple. Non, le mec a été pris en charge. Il y a un côté, t'as fait le fifou toute ta vie. À la fin, quand même, c'est papa oncologie qui te prend en charge, quand même. Voilà, c'est le docteur, attendez, c'est le docteur Pierre-Yves Tétrich. Il y a un petit côté Pierre-Yves au début, donc ça va, tu vois, c'est quand même la Suisse, il y a un petit côté franzosisch, tu vois. Mais il y a quand même le Dietrich à la fin, tu vois. Dans le Luzerner Kantonsspital, je sais pas comment on dit. Bref. Donc c'est bien fait pour sa gueule, en fait. Donc là, évidemment, dans le reportage, ben en fait, il a été soigné en Suisse par des médecins compétents qui lui ont assis son cul sur des chaises longues face au lac Léman, gna gna gna, enfin, je sais plus quel lac là qu'ils ont en Suisse alémanique. Le mec était comme un coq en pâte. Ils l'ont traité avec amour, voilà, parce que c'est ça, la grandeur de l'Européen, c'est qu'en fait, tu lui chies à la gueule, et à la fin, il te donne quand même ta CAF, il te donne quand même ton RSA, il te met une table dans le dos, finalement. Il te met une table dans le dos. Bah, il t'a pas pris au sérieux quand tu disais Zion. Il savait qu'à la première couille, tu finirais par courir de toutes tes forces à Oncology, Luzerner Kantonsspital, et que t'allais ravaler toute la merde que t'avais gerbée durant toute ta vie. On le savait. Bon, ça va, c'est pas grave. On a l'habitude, hein. Le trop bon, trop con. Le blanc, c'est ça, quand même. C'est, bon, allez, tu m'as chié dessus. T'as découpé la petite Lola, reste. Allez, c'est bon. Allez, tiens. Voilà ton RSA. Oui, 1, 2, 3. Oui, allez. Chut. Voilà. Donc, il est venu. Il s'est fait soigner. Bon, comme il avait fumé toute sa vie comme une merde, hein, il a crevé. Finalement, il a crevé. Et ça s'est arrêté là. Voilà. C'est le shit, t'as eu raison de. Du lion from Zion, voilà. Moi, ce que j'aurais voulu, a posteriori, c'est qu'en fait, ça se passe pas comme ça. C'est qu'on lui demande des comptes, tu vois. Tiens, le mec arrive chez le docteur. Déjà, il aurait fallu que le docteur lui fasse un serment sur la drogue. Ça aurait été stylé. Parce que là, le mec a un cancer, il peut rien dire. Il peut pas dire, ouais, ta gueule, c'est ma liberté. Tu comprends pas, t'es un démon de Babylone. Laisse-moi faire, laisse-moi fumer, là, je communique avec Jaja, non, tu communiques avec rien du tout, tu communiques avec la THC, t'es une loque, t'as plus de cardio, oui, tu sautilles sur scène, ta gueule, en fait, d'accord, ta gueule, là, il y a un scanner, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ton pays, des plantes bœufs, ta gueule. Donc, si tu veux, moi, j'aurais aimé qu'en fait, il arrive et que le docteur lui fasse une réprimande de daron, pour le côté infantilisation, en fait, parce qu'il a fait l'enfant, il s'est rebellé contre papa toute sa vie. Puis à la fin, il est allé chez papa pour trouver des solutions. C'est le moment où tu dis « Ouais, je vous encule, je fugue !» Bon, tu vas faire ta fugue, tu fais n'importe quoi, t'as froid, t'es un clodo, tu peux pas te laver, bon, mais tu retournes chez... Bon, excusez-moi, est-ce que je peux récupérer ma chambre? Il y a un côté comme ça, quand même. Il y a un petit côté comme ça. Donc, il aurait fallu que le docteur lui dise... Alors, monsieur Pop Marley, putain, l'interrogatoire de nazi. Déjà, le docteur, j'ai pas envie qu'il soit en blouse blanche. J'ai envie qu'il soit en uniforme prussien, tu vois. Tu sais, l'uniforme prussien, quoi. Avec les médailles, le shako, Tu vois, style Von Mackensen. Vous irez regarder la gueule qu'il avait, Von Mackensen. Il est génial. C'est un de mes personnages prussiens préférés. Il a fait toutes les putains de guerres de l'Allemagne, en fait, de la Grande Germanie. Tu vois, le Gonz, il a été incroyable. Il a fait la guerre de 1870. Il a fait je sais plus quelle guerre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Ou d'ailleurs, il a désavoué le nazisme, ce qui le rend encore plus stylé. C'est-à-dire que le mec, il a dit non, moi, je suis la germanité, je suis pas le nazisme. Le nazisme, c'est pas la germanité. Le mec, il a pesé sa race. Et vous verrez son style. Il a une espèce d'énorme tête de mort en métal, en laiton, sur son shako, mais c'est d'un style. Peter von Mackensen, je crois qu'il s'appelait, je crois que c'est ça. Peter von Mackensen. Donc il faudrait que ce soit Peter von Mackensen, tu vois, le docteur. Et, ah, je faisais côte. Alors, et là, tu... Oui, alors, man, écoute, j'étais dans... et là, à un moment, quand tu dois expliquer à un adulte ce que tu as fait dans ta vie, c'est là où tu te rends compte à quel point c'était de la merde. Vous savez, quand tu étais gosse, on faisait des conneries. Et il y avait le moment où tu te faisais choper, et là, fallait expliquer à un adulte ce que tu avais fait, et c'était horrible. Tu te sentais con, tu te disais, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de la merde. Tu sais, quand il fallait expliquer au directeur pourquoi tu as jeté ton caca sur Stéphanie à la récré. Tu vois. Et là, tu te dis, putain, mais c'est vrai, pourquoi j'ai fait ça, en fait. Putain, c'est vrai, putain. Sur le moment, c'était rigolo, mais là, je... Tu sais, quand on t'explique froidement que tu t'es fait caca dans la main et que tu l'as jeté sur une petite fille de ton école. Hein. Ben, c'est des trucs que j'ai vus hier, elle, à l'école primaire Jacques Prévert. Donc, si tu veux... Le moment où tu passes devant le directeur, tu réalises, tiens, tu fais, bon d'accord, bon peut-être que j'étais une merde, peut-être qu'en fait c'est de la merde. Donc là en fait, il faudrait qu'il suce un Panzer en fait. C'est-à-dire que il faudrait que le docteur le force à sucer un petit Panzer médiatique. Vous savez, un Panzer c'est un tank de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Allemagne. Un Panzer c'est l'Allemagne, d'accord, c'est lourd, c'est solide, c'est en acier, c'est un nom chleu, c'est épique, c'est allemand en fait. Il y a rien de plus allemand qu'un Panzer en fait. D'accord. Donc il faudrait que le mec ait un Panzer majorette, là, vous savez, les... ou un Panzer en maquette. Et là, il faut que Bob Marley fasse un bisou au Panzer. Tu vois. Mais comme dans les pornos, en regardant dans les yeux. C'est-à-dire que le docteur lui tend un petit Panzer et Bob Marley se penche. Et il ne doit pas regarder le tank, il doit regarder le docteur et il fait un bisou sur le. Il fait un bisou sur le Panzer. Comme ça. Hop. Comme s'il allait faire une pipe à l'Allemagne. Parce que finalement, est-ce qu'un Panzer, c'est pas le chibre de l'Allemagne, quelque part, de manière symbolique? Oui. Donc en fait, tu renonces au tiers-mondisme émergent, tu retournes vers la vieille Europe pour trouver une solution, tu embrasses le Panzer de l'Allemagne, le petit Panzer qui dépasse là. Hop, le bout du Panzer. Tu dois embrasser le bout du canon du Panzer. Tu vois. Donc le médecin lui taille, il lui file le Panzer, et là, Bob Marley se penche, et il y a un petit... Le bisou de la défaite, quoi. Tu sais, il s'approche comme ça. Il regarde à droite, à gauche. Il y a quelqu'un qui va prendre une photo ou pas. Et là, il y a du. Donc là, le docteur range le Panzer. Et il lui sort un papier canson. Il sort un papier canson avec non pas un stylo plume, mais directement une plume. Une plume comme nos darons là qui ont appris à faire de la calligraphie avec des plumes et des plumiers là et des encriers à l'école. Tu vois, à l'école avant mai 68. Donc là, Bob Marley doit se concentrer pour écrire et il doit écrire en allemand. Il doit écrire « Je sous-signé Bob virgule Marley ». Renonce à mon tiers-mondisme de clodo. Oui, c'est le docteur. C'est le docteur qui lui dicte le truc. Donc, je sous-signé Bob Marley, virgule, renonce à mon appétence à la ligne, monsieur Bob Marley. Ah, oui, parlons man. À mon appétence pour les trucs de clodo. Point. Mais il faut l'imaginer en fait avec l'accent allemand ou même directement en allemand. Putain, j'ai envie de le taper. Non, mais désolé, parce que ça me fait triper en fait. L'allemand me fait triper. Alors attendez, on va se remettre sur hop, on va refaire traduction français allemand. Allez, on va regarder. Alors, hop, allez, alors, je. Sous-signé, virgule, Bob Marley, virgule, renonce. Attendez, j'ai mal écrit renonce. renonce de plein droit à mon appétence pour les trucs de Clodo. On va rajouter tropical. De Clodo tropical. Et on va rajouter un pardon. L'Allemagne, s'il te plaît. Hop, voilà. Donc ça donne. Ça donne le. Merci pour le stylo, man. Donc il est en train d'écrire comme ça. Et là, t'as le docteur Peter von Mackensen, qui lui dit: Ich, so signé, Bobo Marley, versichtesten, von recht wegen, meinen Appetit auf tropisches Oboseuk. Sorry, Deutschland, bite. Ah non, pas bite. Bite. Ah putain, ça finit par bite, j'avais oublié ça. Ich rossignet Bobo Marley, versichtet von rechts wegen meinen Appetit auf tropisches Oboseux. Sorry, Deutschland, bitte. Putain, et là le docteur il arrache la feuille, il regarde, mais t'es qui est comme une merde. Il se fait engueuler. Mais vous avez écrit comme une merde. Nein, 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 nein. Oh putain. Oh la rigolade, bordel de merde. Nein, 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 das ist scheiße. Et paf, il lui met une claque dans la gueule. Oh putain, c'est ça qu'il aurait mérité, cet enculé. Enfin bref, voilà. Donc c'était pour vous faire part de ce petit, de ce petit documentaire qui dont la finalité m'a quand même bien fait rire. Comme quoi, la vie est assez drôle. La vie est quand même très drôle parce que tu finis par. La vérité ressort, si vous voulez, les grandes vérités du monde ressortent, au final elles ressortent, voilà, elles ressortent, et c'est ce qu'il y a de bien finalement, c'est que même si on maquille, au bout d'un moment, les grandes vérités finissent toujours par émerger de manière symbolique, parce que tout n'est que symbolique, dans le monde horizontal. Bref, les amis, également aussi cet été, j'ai découvert, comme beaucoup d'entre vous, le trailer du prochain Gladiator. Bon, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, je pense que je reviendrai sur le film, pas sur le trailer, sur le film avec le Raptor. Je ne vous dis pas comment ni à quelle occasion, mais je réserverai mon analyse du film en soi une fois que je l'aurai vu avec le Raptor, puisqu'on a décidé de vous en parler un de ces quatre. Donc, on verra quand est-ce que ça se fait. Mais là, je vais m'autoriser de réagir sur le trailer qui, déjà en soi, est quand même très, très parlant sur ce qui nous pend au nez. Moi, j'ai été extrêmement, extrêmement inquiet quand j'ai vu les premières images qui ont été dévoilées là. C'est bon. Déjà, il y a un énorme problème. C'est le choix de l'acteur principal qui est censé incarner Lucius par Paul Mescal, énorme problème. Si vous voulez, le succès du premier film de Gladiator, qui à mon avis déjà n'appelait pas de suite, c'est-à-dire que je vais vous spoiler, parce que ça fait 20 ans qu'il est sorti, donc c'est bon, tout le monde le sait, le héros meurt à la fin, donc je pense que quand le héros meurt à la fin, on enterre le film avec lui, et c'est pas la peine de faire une suite, ou alors si tu fais une suite, tu l'appelles différemment, et tu ne joues pas sur le succès du premier, mais bon, c'est ce que fait tout le temps l'industrie hollywoodienne, et je les comprends, ça rapporte énormément d'argent. Donc, si vous voulez, le succès du premier Gladiator, c'est en fait l'incarnation de l'idéal romain par Russell Crowe. Alors, j'avais déjà fait toute une analyse de Gladiator, je vais pas recommencer, je vous renvoie, je crois, au podcast numéro 2 ou numéro 3, où j'avais parlé de Gladiator et de Predator. Je sais plus lequel c'est, mais c'est dans les tout premiers podcasts, j'avais fait un parallèle entre ces deux films qui défendent un idéal. Cet idéal, c'était l'idéal de la méritocratie au-delà des identités raciales. Donc c'est la communion de l'humanité vers un idéal partagé et qui soit universel. Et c'est ce que défendait Gladiator et c'est ce que défendait Predator. Bon. Et là, on a un héros que ce soit Dutch dans Predator ou Russell Crowe dans Gladiator, on a un héros qui incarne physiquement ces notions de durabilité, ces notions de mérite, ces notions de justice, ces notions de solidité, ces notions de résilience, d'indépendance, d'attachement à la liberté, d'attachement à la vérité, d'accord ? D'attachement aussi à la vie, chose qui est en train de disparaître dans toute une partie de la population. Donc il y avait quelque chose là-dedans de très incarné. Bon, quand tu vois Paul Mescal, tu ne vois pas ces valeurs-là. Tu ne vois pas ce que transmettait Russell Crowe. Là déjà, de ce que j'ai compris du trailer, il s'agit de détruire Rome. Donc tout est là. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le premier film, il s'agissait de sauver Rome de la décadence. Donc c'était de l'accession au pouvoir d'un décadent qui était joué par Commode. Donc un mec qui est incestuel avec sa sœur, qui est lâche, qui refuse le combat, qui empoisonne ses adversaires au lieu de les affronter en plein jour et de leur lancer des défis, qui est un type qui n'a aucune stabilité. On voit qu'il est très changeant émotionnellement, qu'il est influençable. Bon, il représente en fait tous les maux de la modernité. Le méchant du premier Gladiator représente, Commode, représente absolument tous les maux de la modernité qu'on vit actuellement. Et ce qu'il y a de très très drôle, c'est que à l'inverse, Russell Crowe représentait tout ce qui aujourd'hui est honni, c'est-à-dire le patriarche qui a sur ses épaules le maintien et de son air civilisationnel et de sa famille et de ses soldats au combat et de ses camarades de lutte dans l'arène. Donc un type en fait qui est mis au centre des responsabilités. Ce qui est aujourd'hui combattu, c'est-à-dire qu'on essaie de défausser les gens de leurs responsabilités. Ce n'est pas leur faute, c'est plus rien n'est de ta faute, c'est ton environnement, c'est ton enfance, tu as eu une enfance difficile, c'est le manque d'accès à je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc si vous voulez, on a vraiment cette espèce d'inversion. Alors là, c'est rigolo parce que dans le teaser, on voit qu'il s'agit de détruire Rome. Il faut la déconstruire, parce que c'est ça le mot en fait, c'est la déconstruction. Il s'agit de déconstruire Rome. Donc, de qui va se faire aider le héros pour déconstruire Rome ? D'un personnage barbaresque, donc d'Afrique du Nord, qui à la base était un Amazigh, hein, était un berbère d'Afrique du Nord, donc qui était un leucoderme. Je rappelle au passage que, parce qu'il est joué par Denzel Washington, donc ils ont transformé ce personnage en personnage noir. Bon, vous me direz, Russell Crowe, il n'est pas espagnol, et il y a plein d'acteurs qui jouent des latins et qui sont en fait des anglo-saxons. Bon, mais ils ont des gueules qui incarnent à peu près. Là, on a une représentation de ce personnage, j'ai oublié son nom, vous me le pardonnerez, de ce personnage qui est joué par Denzel Washington. C'était un Méditerranéen, du nord de l'Afrique. Donc c'est un berbère, un kabyle, voilà. C'est un mec qui avait, on a sa représentation, il a des traits leucodermes, hein, il a des traits d'européen. En fait, il faut comprendre que l'Afrique du Nord a été peuplée déjà à la préhistoire, par les Néandertaliens. Les populations néandertaliennes, ça va de l'Allemagne jusqu'à Gibraltar. Donc, si vous voulez, l'Afrique du Nord était peuplée de Néandertaliens, qui étaient des populations qui étaient indo-européennes. Donc, en fait, les populations du nord de l'Afrique sont des indo-européens. Et puis ensuite, il y a eu l'arabisation. Et donc, après, effectivement, le métissage avec les Arabes. Et pour les populations qui sont le plus au sud, le métissage avec les populations du Sahara, donc d'Afrique noire. Enfin, en tout cas, d'Afrique sahélienne, qui, à travers le Sahara, sont mélangés avec les Maghrébins du Sud. Mais les Maghrébins des montagnes, les Berbères de l'Antiquité, donc pré-invasion islamique, étaient des individus blancs. Et d'ailleurs, le personnage en question, on a des représentations de lui, et c'est un Méditerranéen avec une barbe qui n'est pas crépue, et avec des traits, un pif de Méditerranée infini, enfin une gueule du typique grec, du typique kabyle, ou du typique espagnol, ou du typique italien que tu croises, quoi, voilà. Et si vous voulez, bon, là, ils ont décidé de foutre Denzel Washington, qui nous joue le mec qui a les yeux écarquillés, comme dans tous ses films. Pénible, parce qu'on n'est pas dans Menace to Society là, tu vois, il y a pas Vorenus qui va débouler pour faire un drive-by en char tiré par des chevaux, si tu veux. Donc c'est le jeu est un peu, pour moi, Djimon Hounsou, qui est africain, qui est béninois je crois d'origine, dans Gladiator 1, ça fonctionne parce qu'il joue un africain, voilà, on voit l'africain. on ressent l'Africain, il a une gestuelle et des comportements d'Africain. Et ça rend le personnage extrêmement crédible. Voilà, quand il dit « je me rappelle de l'endroit où je vis, mes filles vont chercher l'eau à la rivière », on imagine parfaitement le village africain de l'Antiquité avec Djibon Ounsou et sa femme et ses nombreux enfants. C'est un truc, c'est... Voilà. Là, si vous voulez, le berbère, le kabyle joué par un afro-américain, j'ai pas compris pourquoi on a du « hey yo » dans l'Antiquité. C'est l'inverse. C'est-à-dire, le « hey yo » est exactement, strictement l'opposé de ce qui s'est construit en Antiquité. L'Antiquité, c'est l'inverse du « hey yo ». Vraiment, hein, c'est ce que porte philosophiquement le « hey yo » ou le « yo » tout court. Et si on avait un curseur, c'est à l'inverse strict de ce qu'ont établi les ancêtres des Européens en Europe à ce moment-là de notre histoire. D'accord ? Il y a des colonnes symétriques, si tu veux. Voilà. Il y a des bas-reliefs proportionnés. Il y a des statues 3D avec des mecs qui ont des gueules qui vont installer le classicisme, si tu veux. D'accord ? Il y a des armures chromées. Il y a des figures découpées en laiton sur les armures, en fait. D'accord ? C'est pas un maillot Raiders de Los Angeles avec un bandana. Vraiment, non. Donc là, énorme erreur. Ensuite, ils ont mis du hip-hop parce qu'en fait, comme maintenant, plus rien n'a de puissance en soi. Il faut mettre du hip-hop pour faire un truc cadencé, pour donner une espèce de puissance dont en fait, le premier film n'avait pas besoin parce que tout le monde pesait très lourd. Tout le monde pesait très, très lourd. Tu vois plus d'acteurs, tu vois des steaks. D'accord, Russell Crowe, c'est un steak brun. Commode, c'est un steak brun avec un bec de lèvres. Tout le monde est un steak, en fait. Rad Meuler est un steak. Djimon Ounsou, c'est un steak cuit. Tout le monde est un steak. Tu vois que t'es steak. C'est un film qui parle de steak, en fait, le premier Gladiator. Viande, viande, viande partout. Il n'y a pas le côté, on va mettre du hip-hop pour que la viande ait l'air d'être de la viande, alors qu'en fait, c'est du soja. Il y a vraiment ça dans les films maintenant. Comme les acteurs sont inconsistants, il n'y a plus le côté daron. Il n'y a plus le côté chef de famille. Il n'y a plus le côté anthropologie ou sociologie de droite, si tu veux. On va pas utiliser le mot droite. On va utiliser sociologie naturelle. D'accord? Conservatrice. Comme il n'y a plus ça, il faut mettre du hip-hop. Il faut mettre des grosses nappes de son pour qu'on ait l'impression qu'il y a quelque chose de lourd qui se passe à l'écran. Alors que non. Alors que c'est le défilé des fiottes, en fait. D'accord ? C'est pas parce que tu mets une grosse nappe sonore sur Pierre Niney qu'il arrête d'avoir une gueule de rat, en fait. Je vous conseille de faire... Vous achetez un hamster à Amazonia, vous l'amenez chez vous, vous mettez « Today was a good day » de Ice Cube, le hamster ne devient pas un ragondin. D'accord ? Il prend pas en volume, il prend pas en importance, il prend pas en charisme. D'accord ? Donc c'est pareil pour les films. C'est pas parce que tu prends Paul Mescal et que tu le mets avec du je sais pas quelle musique hip-hop de merde et qui est censé être viril que tout d'un coup il va avoir le charisme de Russell Crowe. Le charisme en office de pute, ça ne s'improvise pas. Le charisme, ça s'acquiert avec une vie de daron, d'accord ? Pourquoi est-ce que Russell Crowe a une gueule à garer un F-550 devant Monsieur Bricolage australien ou néo-zélandais, je sais plus où il est né, pour aller chercher des poutres pour refaire la véranda dans le jardin, parce qu'en fait, il a sans doute fait bande de fils de pute, d'accord ? Et qu'il a une dégaine à être allé chercher des poutres en 10 par 10, avec des chevrons et des vis en zinc pour pas qu'elles rouillent, à Monsieur Bricolage néo-zélandais, en fait. Voilà. Donc ça fonctionne. On sent qu'il a invité des mecs qui étaient, dont personne ne pesait en dessous de 100 kilos, à faire des barbecues, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il a cette dégaine-là, c'est pour ça qu'il a le flow, il a les yeux, il a les pommettes un peu lourdes parce qu'il y a eu de la picole, parce qu'il a eu une vie de stress, d'accord ? Donc en fait, le mec est là, il pèse. D'accord ? C'est comme quand tu vas acheter des fruits et des légumes, tu sais que les pastèques, ça pèse, ça va. Tu sais qu'il y a des légumes qui vont être plus lourds que d'autres. Voilà. Tu le sais. D'accord ? Tu sais quel est le morceau de viande qui va le plus te santé, tu vois. Voilà, tu sais. Tu sais que quand tu prends une lamelle de saumon, c'est pas pareil que quand t'attrapes une bavette d'angus. Voilà, c'est la stricte réalité. Et donc, c'est très très drôle parce que la modernité fabrique du Timothée Chalamet de merde, avec la mèche folle, là. Et on essaie de mettre du « waouh ». Écoutez cette musique qui nous dit que ce personnage est important, mais ferme ta gueule, en fait. Si un personnage pèse, il n'y a pas besoin de mettre une musique pour expliquer qu'il pèse, d'accord ? Quand Stallone, il apparaît au putain d'écran dans Rambo, tu le sens qu'au comico, ça va être musclé. D'accord ? Tu sens qu'il va faire des sauts carpés en attrapant des shérifs par la glotte en leur disant « Ne m'emmerde pas de m'emmerder ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu !» Voilà. Oui, 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 il va te faire une guerre comme t'en as jamais vu. On le croit. On te croit sur parole. D'accord ? Quand putain de Dolph Lundgren, avec ses énormes bras de scandinave burné d'extrême droite, il tape comme ça dans les gants de Rocky et qui lui dit « Tu vas mourir !» Oui, oui, on sait qu'il peut le faire. Bon, il est communiste, donc il peut pas gagner, parce qu'il n'y a pas de crise dans sa vie. Mais il est en capacité de le faire. Il le dit pas pour rien, on le sent. Quand t'as Sven Thorsen qui déboule sur son char dans Gladiator 1. Tigris de Gaulle. Mais oui, oui, Tigris de Gaulle, oui, oui. Parce qu'il a un bras de mec qui vend des tondeuses Deer Hunter, là, où je sais plus comment ça s'appelle. John Deere. Non, Deer Hunter, c'est un film. Il a une dégaine à remplacer des pièces de tondeuses, bande de fils de pute. Il y a un gros poitrail, d'accord. Si tu prends un comment ça s'appelle, la putain, les maîtres, là, qu'on te file chez Monsieur Bricolage, là, tu vois, et que tu fais un tour de poitrail, t'obtiens un tour de poitrail de sanglier, en fait. D'accord. Tu le sens. Il y a de la voix, il y a des basses, d'accord. Il y a un petit peu de cholestérol, ça si tu veux, ça patine le bonhomme. C'est comme la viandoche, quoi. Tu vois, la viande, quand tu la fais maturer, elle a une gueule, elle est un peu plus brune. Comme tu sens, là, tu vois, tu sens que la viande, elle a été travaillée, là, tu vois. Pierre Niney, il est travaillé par quoi, Pierre Niney? À part les doutes sur son orientation sexuelle, il travaillait par quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce fif de rat, en fait? Est-ce qu'il est né ou est-ce qu'il a été acheté au rayon rongeur à Maxiso? Donc, si vous voulez, vous ne fabriquerez pas du mythe avec du caca. Le mythe, ça se fabrique avec du marbre, ça se fabrique avec de l'acier et ça se fabrique avec de la gloire et de la transcendance. Des choses qui manquent à cette époque de merde en plastique de fils de pute. Voilà. Voilà pourquoi Gladiator 2 va être nul, en fait. Parce que les Kabyles sont joués par des Afro-Américains. Parce qu'en fait, le héros Paul Mescal, ce n'est pas Russell Crowe. Russell Crowe, putain, mais Russell Crowe, il amène le petit Timmy au football le dimanche. Puis après, il rentre, il ouvre des binous, d'accord. Il ouvre des buds, pas des Bud Light, hein. Il ouvre des buds, il ouvre des Modelo, d'accord. Et il fout de la barbaque sur le feu et on va se régaler, tu vois. Il y aura des sauces, et pas algériennes, tu vois. Voilà. Il y a des sauces, tu vois. Et après, il l'a monté, la véranda. Il y a des gros trucs de vis et tout. Oui, il y a de la pampard. Oui, il y a du Pégras dans le rocking chair à bascule. Oui, on regarde le match. Oui, il y a des ambiances comme ça. On entend l'horloge dans le salon et Russell Crowe regarde le match et il lâche une caisse. Et il croit qu'il est seul et en fait, ça fait rire les gosses parce qu'ils sont à l'étage et ils ont entendu. Et ça fait rire le père aussi. Voilà, c'est ça, Russell Crowe. C'est pour ça que quand il passe dans une allée de Romains, les mecs lui font général, 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 parce qu'ils le respectent. Parce qu'il s'appelle papa. Avant de s'appeler Maximus, il s'appelle papa, en fait. Est-ce que Paul Mescal s'appelle papa? Qu'est-ce que c'est que cette barbe de fils de pute en déficit de testo? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces hystériques qui crient à l'écran, là? Dune est... J'ai adoré le premier Dune. Le 2 est une merde. Parce qu'ils essaient de faire passer Timothée Chalamet pour un mec comme Russell Crowe. Ça ne marche pas. Arrêtez de nous foutre des adolescents. Zendaya a plus de testo que Timothée Chalamet. Ils sont tous les deux imbaisables parce qu'elle, on dirait une beurette énervée de MJC. Et lui, on dirait un énorme gaysou de centre-ville parisien. C'est la réalité. Il a son espèce de mèche folle, là. Oh, Lissane Al-Gaïb, Lissane Al-Gaïb. Mais ta gueule, il n'y a pas d'Lissane Al-Gaïb. Il y a un keuk avec une énorme pomme de d'Adam. Parce qu'en fait, le gonze a un physique de perchiste, si tu veux. Pas de perchiste sportif, un perchiste de cinéma. Ok. Et Zendaya, elle a une gueule de boxeur amateur. On dirait qu'elle est guyanaise, en fait. Tu sais, c'est un Guyanais. Elle a une tête de Guyanais énervée, tu vois. T'as pas envie de la baiser. Avant, les gonzesses, Connie Nielsen, je crois qu'elle s'appelle, là. La gonzesse là, qui tourne autour de Maximus, t'as envie qu'il fasse l'amour. Parce qu'elle, c'est maman. Et lui, c'est papa. Et donc, il faut qu'il baise. Bon, le film est un peu misogyne, on va pas se mentir, Gladiator 1, il est un peu misogyne, t'expliques que les femmes, quand même, à la fin, tu te fais trahir. Mais enfin, quand même, on a envie qu'il fasse l'amour, c'est maman, oui, elle sait faire des crêpes, et elle reste bonne, et oui, elle a quelques petites rides sur le coin de la bouche, mais ça rajoute à son charme, d'accord? Elle est magnifique dans le film, t'as envie de l'épouser. Est-ce que t'as envie d'épouser Zendaya? Non, j'ai envie de consulter son casier judiciaire, j'ai envie de savoir à qui elle a mis un coup de cutter. Elle a une gueule à porter un jogging un dimanche, enfin... Où on va avec des héros comme ça? L'autre, il a une tête de sorisseau et elle, c'est une racaille. Je suis sûr qu'elle met un gosse ceinture et un lancule à l'autre. Il doit y avoir des bails comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer Russell Crowe se foutre à 4-4 et la prendre par Brigitte Nielsen? Non! Pas Brigitte Nielsen, Connie Nielsen. Je sais plus comment elle s'appelle. Non! Donc, si vous voulez, n'installez pas du charisme avec des bases de hip-hop de gogol. Installez du charisme en nous mettant des vrais acteurs qui ont de la pampard. Qui ont un tour de bras, qui ont une gueule, qui racontent autre chose que... ah, j'adore là. Je sais pas si vous avez vu les putains d'interviews de Timothée Chalamet. Il est infernal, on dirait une caricature. Quand il se met à parler français avec l'accent américain. Ouais, j'adore la France. Ta gueule. L'autre jour, il dit... J'ai vu une interview, ouais, les croissants. Ta gueule. T'es une copie d'un million de connards qui sont entre la France et l'Amérique qui te parlent de croissants, fils de pute. C'est ça, la France, c'est les croissants. Et Fontainebleau, enculé. Et le bœuf bourguignon. Parce que c'est toujours pareil. En fait, les Américains comme ça, là, qui te disent « Oui, j'adore la France », ils te parlent jamais des vrais trucs de la France. Raymond Boulidor, Alba Ladejo, Lolo Pons, le bourguignon. Donc, si vous voulez, vous nous mettez des mecs vides et vous essayez de les remplir avec des musiques, avec des personnages annexes. Parce que dans Dune, c'est ce qui s'est passé. Vous avez comment il s'appelle vous avez là l'acteur espagnol qui pèse là. Ah putain, comment il s'appelle? Javier Bardem. Vous avez Javier Bardem qui passe son temps à faire oh, listen, mais ça marche pas. On dirait un daron qui essaie de donner confiance à son fils pour qu'il marque un panier en cantonal, plaisance du touche contre Tournefeuille. Qu'est-ce que tu me racontes? Personne n'est en cantonal dans. Et puis aussi, il y a un énorme problème, c'est qu'en fait, les jeux du cirque sont devenus les combats de K1, en fait, hein, pour la faire simple, ou le football américain.
D'accord.
Si en 2000, les jeux du cirque, c'est des clacasses de viande de Le Banner qui tape contre la cuisse de Mark Hunt, The Samoan Monster, bordel. The Samoan Monster, c'était le nom qu'on lui a filé. Le monstre Samoan. Déjà, Samoan tout seul, t'imagines un kraken bronzé qui sort de la mer. Si tu mets Monster dedans, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est le roi des Maoris. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est le septième cavalier de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe? Si en 2000... Les titans de l'arène, c'est Le Banner, Mark Hunt avec des combats ultra violents. Tu peux pas faire un truc plus pédé il y a 2000 ans. C'est impossible. Déjà, tout ce qui était il y a 2000 ans était moins pédé qu'aujourd'hui, par définition. D'accord? Tout ce qui s'est passé avant est moins pédé que cette époque. Donc, tu ne peux pas mettre des trucs plus pédés que ce qui se passe maintenant. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si en 2000 ou en 99, c'est Mark Hunt, Le Banner, les jeux du cirque, il faut qu'à l'époque, ce soit le Ralph Muller qui mette des claques à des gonzesses qui se font couper en deux par des chars pour la bataille de Carthage. Des hordes de brutes, des nations de brutes, je sais plus comment il dit, mais c'est épique. C'est épique, bordel de merde. Quand t'as le speaker avec sa perruque là, qui déboule sur la plaine de Sama, les armées de Scipion l'Africain, issus de toutes les nations de brutes, voués à la destruction, c'est ça le dialogue. Et là, t'y es, bordel, t'as envie que les Romains, légataires du fascisme éternel, aillent se la coller contre eux, avec des glaives et des armures plaqueurs, bande de fils de pute et des armures lamellaires, on y va, et le Montefortino, et le Gladio, on y va, oui, on adhère aux Romains, j'étais avec toi à Villebonne, oui, il était à Villebonne avec lui, on le croit, parce que Villebonne, en fait, c'était Monsieur Bricolage, c'est ça la vérité, ça fonctionne, oui, Russell Crowe, le daron, il met des coups de javelot aux Amazones avec des armures en cuivre qui le poursuivent en char, oui, Ralph Muller, il prend des flèches dans la cuisse, il s'en bat les couilles, il continue, c'est un chleu, bordel, il est blindé, le mec. Il est blindé, c'est un Allemand, il a un blindage naturel. On y est. Et Jimon Unsu qui fronce les sourcils avant de mettre des énormes coups de lance. On l'a, l'Africain avec la sagaie. Oui, le chasseur africain, on y croit. Le Francis Ngannou de l'Antiquité qui va foutre des coups de lance. Des coups de lance au gonze qui essaie d'envahir son coin de jungle. On y est, on y croit parce que les mecs portent un truc. Il y a des physiques, il y a des paluches. Il y a des veines sur l'avant-bras. Qui a une veine sur l'avant-bras? Qui a une veine sur l'avant-bras dans les nouveaux héros, là? Les Paul Mescal, les Timothée Chalamet, quoi, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ces éducateurs, là? Ils ont des gueules à jouer dans Nos Jours Heureux. Putain de merde. Donc, ne nous mettez pas du hip-hop pour nous faire croire que c'est des mecs solides. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Bon, je vais pas parler plus de ce film parce que de toute façon, on y reviendra avec le Raptor. Voilà, les amis. Écoutez, petit retour, je pense gagnant avec ce podcast culte. C'est avec plaisir que je vous offre cet épisode de retour, les amis. C'est que de la générosité pour moi et pour vous. Si vous voulez me soutenir pour me remercier ou tout simplement parce que je vous suis sympathique, vous pouvez vous ou même pour vous passer un bon moment. Vous pouvez vous procurer mes œuvres, mes BD et mes livres, un livre coécrit avec Julien Rochdy aux éditions Eteri et mes nombreux autres livres qui sont désormais disponibles aux éditions Magnus sur le site www.magnus.fr, magnusedition.fr. Et vous avez également mes bandes dessinées avec Marceau. Vous avez Dino Brutalège qui arrive bientôt. Vous rappelez que il y a à peu près 10 mois, ou maintenant 11 mois plutôt, je vous avais fait un truc sur, sur 10 000 la Terre d'avant, une critique du film 10 000 la Terre d'avant. Eh bien, figurez-vous que je vous avais promis que j'allais faire le scénario alternatif en BD, c'est chose faite, hein. C'est très important aussi de tenir parole sur des projets, même quand c'est des projets conséquents. Vous voyez, ça a pris un an de faire cette bande dessinée, mais je vous l'avais annoncé pour la rentrée 2024. Elle sortira en octobre 2024. Voilà les amis. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un petit podcast quand elle sortira. Voilà les amis. Donc c'est pour vous dire, je suis toujours sur le coup avec ce podcast. Je vous embrasse. Merci d'être aussi nombreux à avoir suivi mes podcasts précédents. Je sais que vous le serez tout autant pour ceux qui vont arriver. Merci les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche.